pour les Fleet Jaunes au couloir numéro 2. Allez, les filles, c'est parti pour les Fleet Jaunes.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Et salut les sportifs, salut les sportives, une nouvelle émission de l'Instant Sport, la 116e, avec une activité toujours aussi intense en loisir. Et bien entendu, ce match, le match du week-end, c'était en football, ce résultat dont on va longuement parler dans cette émission. La défaite des féminines de Nico, 9 buts à 1 à Bayargues. Salut Nico.
Salut.
Alors,
ça valait le coup de rater le restart.
Ouais, je te jure, hein, le pauvre, il voit pas le match, il se fait bloquer par les gilets jaunes et il en prend 9, quoi.
Bon dimanche.
Ouais, alors bon, qu'est-ce qui s'est passé, neuf? Bon, c'était les premières, hein, non? C'était les
non,
leaders?
Non, c'est les deuxièmes. Mais il s'est passé qu'on a été bidon, quoi. Le niveau zéro du football, voilà. D'habitude, quand on perd et que je te dis que c'est pas mérité, voilà. Ben là, quand on a pris une branlée et que c'est mérité, faut le dire, on a pris neuf.
Si tu me dis, si tu me dis à 9-1 que c'est pas mérité.
On mérite les neuf.
On sait jamais, sur un malentendu.
S'il y en a 12. C'est ouais. Pareil, on se serait fait taper par n'importe qui dimanche. Mais comme disait Giroud, hein, vaut mieux perdre une fois 9-0 que 9-0.
Que perdre tous les week-ends comme tu fais. Ouais. Il disait ça. Mais on reviendra quand même sur ce match. J'espère au moins que Mathilde a marqué.
Non.
Même pas.
Oh. Non, c'est Jade.
Bon. Bah, écoute, mais c'est bien quand même d'avoir marqué un but. Évidemment, le match du week-end, c'était le 7e tour de Coupe de France entre l'AFL et le Red Star. Julien y était. Salut Julien.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors Julien, que vous n'avez pas entendu à l'antenne, mais qui nous a aidé sur l'aspect technique pendant ce match.
Disons que ouais, j'ai un nouveau rôle dans cette émission, c'est d'amener les bières et le pain.
C'est bien.
Donc voilà, hein, je vais voir si je peux négocier une augmentation.
Ouais, 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 non, mais en plus tu le fais bien.
Il y a bien la bière coulée à flot.
Et la bière coulée... Non, on s'est tenu, hein, Laurent.
Je sais ce que veut dire Patrick.
Patrick qui analysait le match à la mi-temps, qui était là. Salut Patrick.
Salut, bonjour à toutes et à tous.
Ouais, une défaite, hein, on va en parler longuement pendant cette émission, bien sûr. Hein, c'est un peu le fil rouge, c'est le conducteur de cette émission. Et lui, vous l'avez entendu tout le match, Laurent Julien. Salut.
Salut, bonjour tout le monde.
Alors, on le rappelle, la FL qui est éliminée avec les honneurs, 3 buts à 2 contre cette équipe de Ligue 2 du Red Star. Alors, on va se remettre dans le match avant d'en parler avec les commentaires en direct de 48FM pour ce match. Comme ça, on se remet, on en discute après. Et allez, ça y est, on est parti pour ce coup d'envoi qui va être donné à l'instant. C'est Mande qui donne le coup d'envoi, qui joue à leur gauche du terrain, qui joue en blanc, Lolo.
Ouais, c'est ça. Et puis le Red Star qui joue couleur traditionnelle de un vert.
Ah, joueur du Red Star, mais le joueur 7
qui va centrer. Ah, joli centre qui revient sur le numéro 5. Numéro 5, ah, but. Oh. Ah, but.
But du Red Star. Alors, ah, il y a du cafouillage.
Par terre, on sait plus qui.
Ah. Tout le monde est par terre.
Oh, penalty. Oh là là, l'arbitre s'est fait abuser, il me semble. C'est parti, le penalty Idriss qui le marque facilement à contre-pied. Et là, malheureusement, qui complique énormément nos histoires. Hein.
Allez Laurent, le match qui va reprendre, hein. Ça y est, les deux équipes sont en place, pas de changement à la mi-temps.
Reparti. Mais il vient de se toucher le nez, il le sent bien.
Ouais, on sait ce qui se passe quand
il pose le ballon, il repose le ballon.
Et d'ailleurs, tout le monde s'enlève, il reste seul.
Il
hein.
Y a quand même Johan Robert qui vient lui demander s'il est
sûr. S'il est sûr, s'il a pas mal aux pieds. T'es pas ballonné, Fadil, t'es sûr
Ça va, tout ça, il prend soin de lui, mais...
Les tomates à midi, ça t'a donné assez de force, on est en hiver. Ouais, on va voir ça.
Allez Fadil.
Ouais, on va voir si c'est Fadil. Johan Robert qui prend son élan aussi.
Le mur
hein.
Est à...
Ouais, il est très près le mur là.
Il est pas bon le mur.
Non, il n'est pas à distance réglementaire.
Allez Fadil, c'est parti.
Oui. Oh, quel but.
But. Oh, le but de Fadil, ce coup franc en pleine lucarne. Oh là là.
Allez, le pénalty est tiré par Teddy, Thomas. Il arrête.
Arrête du gardien Mandor. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Oh là 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 là.
Au pied, il commence à faire froid. Moi, je commence à avoir froid au pied aussi.
Ouais,
là.
C'est vrai.
commence à être compliqué, allez, mais on va voir ça. Allez, Nabil Zanina.
Qui s'est jaugé tout à l'heure sur le premier coup franc. Un petit peu comme Fadi la première mi-temps. Allez, Nabil Zanina qui va centrer. Voilà, là c'est mieux tiré que tout à l'heure. C'est sur un verre encore une fois. Allez, le petit Malo qui récupère. Il envoie dans le paquet. Oh, joli. Allez, deuxième poteau, Fabre. Fabre qui s'en... Allez, but. But. But, égalisation. Et bien voilà, on le disait, 75e, c'est le moment.
C'est le moment.
75e minute, l'AFL qui égalise.
Aïe.
Oh putain, numéro 11, merde. Deux buts.
But du Red Star.
But du Red Star sur.
Eh ouais, on le sait qu'il faut pas. Après un but, il faut pas se déconcentrer.
C'est pas possible sur un renvoi de la tête, tout simple là. Un ballon dans le dos de la défense, ils se sont un petit peu regardés. Allez, ils vont garder la balle. Là, tout ça, on en arrive à 7 secondes, il reste. Voilà, l'arbitre qui a mis le sifflet à sa bouche. Arounassi qui déborde et c'est fini. Et voilà, malheureusement, défaite de l'AFL sur un score de 3-2.
Et voilà, défaite de l'AFL 3-2. Alors, une première mi-temps pas trop maîtrisée, une deuxième mi-temps beaucoup mieux. On va donner la parole à Julien, tiens, pour commencer. Julien, ton analyse sur ce match?
On a senti au début du match, peut-être c'est vrai, un petit peu de retenue de la part des joueurs de l'AFL, même si le Red Star ne s'est pas montré spécialement dangereux sur le premier quart d'heure, les 20 premières minutes. Malheureusement, sur ce premier but, là, ça se joue sur un coup de pied arrêté, un ballon un peu cafouillé, le ballon qui rentre à 2 à l'heure. Et ce but, il a redonné un petit peu d'envie aux joueurs de l'AFL, ils se sont un petit peu mis dans le match. Il y a cette action où peut-être Fadil aurait pu bénéficier d'un pénalty où il est un petit peu retenu par le maillot, par le défenseur du Red Star.
Ceinturé.
Oui. Jusqu'à la mi-temps, il ne s'est pas passé spécialement grand-chose. Et puis, il y a ce fait de jeu où Jürgen fauche un peu l'attaquant. Il y a l'arbitre qui va pour siffler. Finalement, il attend un peu. Il voit qu'il y a un autre mec du Red Star qui tombe. Du coup, il siffle un pénalty. Il s'est dit, bon allez, je vais siffler pour le Red Star. 2-0. Et c'est vrai qu'à la mi-temps, quand tu prends un deuxième but comme ça sur Peno, juste avant la mi-temps, tu te dis que ça va être hyper compliqué de revenir. Et puis en deuxième mi-temps, il y a le coup franc de Fadil qui relance complètement le match à 2-1. Il y a l'arrêt, comme on l'a entendu dans les commentaires, de Jürgen encore sur un pénalty pour le Red Star. Il le sauve et là on se dit, allez, c'est peut-être le tournant du match, il va peut-être pouvoir se passer quelque chose. Et puis oui, il se passe quelque chose puisque Mika de Freitas égalise à 2-2. Et par contre, la deuxième mi-temps de l'AFL était beaucoup mieux. Alors le coach Vignola avait commencé le match en 4-3-3. Il y a eu ce réajustement tactique au début de la deuxième mi-temps où ils sont passés en 3-4-3, puisque Johan Robert était au milieu de terrain au début du match. Il est passé dans ce rôle de piston là sur le côté, et ça a changé beaucoup, beaucoup de choses, hein, puisque même si Yo était blessé, son activité sur le côté, elle a fait beaucoup, beaucoup de mal aux joueurs du Red Star. Le 3-4-3 a beaucoup perturbé le Red Star. Il l'avait dit d'ailleurs le coach la semaine dernière, que quand l'AFL joue en 3-4-3, les équipes ont un peu du mal à s'habituer à ce système. Alors oui, après il y a cette défaite 3-2, mais on peut s'imaginer qu'avec une équipe de l'AFL au complet, un Yo Robert au complet, même Nabil quand il est rentré avec sa qualité de passe, c'est lui qui amène le but de Mika de Fred sur son coup franc. Oui, peut-être qu'avec une équipe de l'AFL au complet, le match il aurait pu être différent. Après c'est la coupe, hein, voilà, c'est vrai qu'on avait tous un petit peu en esprit l'épopée d'il y a 5 ans quand il y avait eu les 16e de finale. Mais voilà, on a vu que sur un match, Mende était capable de tenir tête à une Ligue 2. Plus que tenir tête même, et on va dire quand même que le regret, c'est, on le répète jamais assez, hein, de très concentrer les 5 minutes après un but.
Et cette première mi-temps, on arrive un peu la peur au ventre.
Ouais, voilà, c'est ça, il y avait un peu d'appréhension, un peu de retenue, je pense, de la part de certains joueurs. J'ai vu...
Ce qui est compréhensible aussi.
Oui, oui, tout à fait, j'ai vu là, un rapide résumé sur France 3, il y avait une interview de Mika de Freitas qui disait que l'équipe tournait autour de 20-22 ans. C'est vrai que dans ce genre de match, un petit peu d'expérience, ça fait jamais de mal. Au milieu de terrain, il y avait Paul et Bastien qui sont tous les deux nés en 98. Devant, Quentin et Axel qui sont des 97. Donc voilà, ça fait bien évidemment des joueurs jeunes. Il manquait derrière, la semaine dernière, on l'a dit, il manquait Pierre Tessier, Benjamin Almeiraz, qui bien évidemment ont fait défaut dans ce genre de match.
Ceux qui n'étaient pas là, qui s'est qu'à attaquer dans l'axe avec Mika?
Il était avec Mohamed Sakho.
Très très bon Mohamed Sakho,
qui a fait
d'ailleurs
un très bon match derrière.
Patrick,
il joue plus haut d'habitude.
Ouais, il est plutôt numéro 6, mais juste pour conclure voilà, sur la petite analyse du match, ouais, ça peut être rageant quand on revient de 2-0 à 2-2, prendre un but comme ça direct sur le coup d'envoi, un 3-2. Mais bon, je pense qu'avec tous les absents qu'il y a eu dans l'envie, c'est un match qui peut que faire du bien pour la suite du championnat.
Ok, Patrick.
Oui, Mohamed Sakho, pour moi, qui est l'homme du match du côté de la Eiffel, pour moi, meilleur joueur du côté vandois, vraiment surprenant. Bon, déjà, on le connaissait, on l'avait vu, qualité au milieu de terrain, un abattage, un volume de jeu quand même assez conséquent depuis le début de la saison. Donc, bonne recrue, on l'a vu de suite. Donc là, positionné pour une fois dans l'axe central de la défense. Et pour moi, j'ai trouvé énorme. Dur sur l'homme, il a arraché les ballons, finalement bonne de la tête. Voilà, alors c'est vrai que sur le deuxième penalty, bon, et peut-être on peut lui reprocher d'être mal aligné, parce que c'est pour ça que l'attaquant se retrouve face à Jürgen. Et donc là, par contre, le penalty était indiscutable, parce que bon, quand Jürgen le fauche.
Je crois qu'on peut peut-être le discuter, parce que je pense qu'il le fauche en dehors de la surface.
Ouais.
À mon avis, le fauche en dehors de la surface, ça aurait dû faire, à mon avis, peut-être j'ai tort, coup franc, mais par contre, il s'en sort bien de pas avoir pris un carton rouge.
Il peut prendre un rouge. Ouais. Sakho peut prendre un rouge aussi à un moment dernier défenseur où il attrape le mec
de la main surtout.
Non, il touche le ballon de la main.
Ouais. Il touche le ballon de la main. Parce que
le mec, il file au but. Bon, c'est des décisions comme ça, mais en tout cas pour moi, ça a été le meilleur élément du côté mandois. Et c'est vrai que on peut regretter cette première mi-temps. Moi, ce qui m'a le plus gêné. C'est qu'on ne mettait pas l'intensité d'un match de Coupe de France face à une Ligue 2. J'ai trouvé qu'on était un peu léger dans les impacts.
C'est ce que disait Laurent aussi pendant le match.
Dans le harcèlement du porteur de ballon. Et donc c'est ça qui me laisse un peu de regret, parce que quand tu vois la deuxième mi-temps, si on avait mieux attaqué, je pense qu'il y avait la place de passer, mais au final. Ça fait de beaux souvenirs et on peut dire que la Eiffel a été à la hauteur de l'événement.
Laurent.
Oui, écoute, c'est la même analyse que les collègues. Si en première mi-temps, avec des si bien sûr, on avait pu mettre quelques satons, parce que finalement cette équipe à un niveau Ligue 2, ça joue foot, ça tamponne pas. Là, ils auraient été un petit peu plus surpris. Et puis, si bien sûr l'arbitre nous avait accordé ce penalty sur la faute de le ceinturage sur Fadil, c'est pas le même match et ça aurait pas été un scandale non plus d'avoir ce penalty. Mais bon, c'est je pense que les couleurs, les joueurs de l'AFL, puis les dirigeants et tous les bénévoles qui ont œuvré pour cette journée ont montré un beau visage de la Lozère et demandent bien sûr. Et donc voilà, je pense qu'on peut être fier de notre club.
Oui, on passe en 3-4-3 à la mi-temps, ça aurait pu être un coup de génie parce que du coup on revient à 2-2. Par contre, du coup, pourquoi on joue pas direct en 3-4-3 ?
C'est compliqué d'être dans la tête du coach. Mais bon, après, tu es déjà privé de deux défenseurs centraux. Donc, si tu.
Mais justement, là, t'en mets que trois.
Ouais, mais t'as.
Au lieu d'en mettre quatre,
c'est un peu risqué quand même.
Tu te poses la question de qui tu vas mettre à côté de Mikael Freitas. Donc, s'il faut que tu te poses une double question pour savoir qui, en plus, tu vas mettre dans cet axe, puisqu'il te faut trouver deux joueurs au lieu d'un. Mais c'est vrai que après, quand tu vois la physionomie, c'est sûr que Franco Vignola, s'il avait eu Almeiras et Tessier d'entrée de match, il joue à trois défenseurs dans l'axe. Et c'est vrai que le match aurait été complètement différent. C'est compliqué de refaire l'histoire. Mais,
je ne sais pas si c'est si sûr que ça, parce que quand même, quand tu joues une Ligue 2, tu t'attends quand même à prendre la foudre et à subir. Et bon, on a subi, mais plus bas sur le terrain. Et je suis pas certain qu'il aurait attaqué quand même à trois défenseurs. Ouais.
Trois défenseurs
dans l'axe. Donc avec deux joueurs bien sûr sur les côtés.
Mais
donc
c'est ce qui nous disait.
De cinq défenseurs. Après tu dis quand on dit trois défenseurs, on dit trois défenseurs axiaux. Mais bon bien sûr il y a deux latéraux. Il y aurait eu Ramos bien évidemment.
Deuxième mi-temps les deux latéraux étaient très haut, très haut.
Mais c'est ce qu'il nous expliquait la semaine dernière quand Ludo lui a posé la question sur ses schémas tactiques. Et ce qu'il disait, qu'il s'adaptait en fonction des joueurs qu'il avait et que quand il avait Mika, Esch et Pierre, et qui étaient pour lui trois des joueurs majeurs de l'équipe, il pouvait pas ne pas se permettre d'aligner les trois. Là, en ayant qu'un, peut-être c'est aussi ça qui l'a poussé à jouer à deux défenseurs, quoi. Comme il disait, s'adapter en fonction des joueurs qu'il a.
Et après, quand tu perds 2-0, tu tentes le tout pour et tu passes à 3-1.
Mais c'est vrai que ça a tout changé. Cette nouvelle tactique, il faut reconnaître que ça a offert un visage totalement différent de l'équipe et à tous les niveaux, aussi bien défensivement qu'au milieu et bien sûr surtout offensivement. Parce qu'on avait une faiblesse en première mi-temps avec nos joueurs offensifs sur les ailes. bon, qui ont quand même été mis en danger aussi bien offensivement que défensivement par les latéraux du Resta, bon, en particulier l'arrière-gauche du Resta, qui était vraiment costaud et en plus
très, très bon,
avec du punch, un énorme punch. Et bon, c'est vrai qu'avec il y a eu plus d'aide, ils ont été plus aidés par justement nos latéraux qui jouaient plus haut, et donc ça allait mieux pour ces joueurs de côté, Quentin Leroux et Mouffret, Alex,
Axel,
pardon, Axel Mouffret.
Moi, je voulais souligner aussi l'état d'esprit de ce match de la part des deux équipes, beaucoup de respect et de fair play sur le terrain, et puis même à la fin du match, puisque les joueurs du Restart ont fait une d'honneur pour nos joueurs, donc j'ai trouvé ça très très sympa, très très correct de leur part. Même quand on les a un peu taquinés en deuxième mi-temps, ils ont jamais mis d'agressivité qui a pas lieu sur un terrain de foot. Je parle de la grosse agressivité, bien sûr, ou du mauvais esprit. Donc bravo à eux aussi.
Côté Restart, on a parlé de cet arrière gauche très très bon. Patrick, il y a milieu de terrain qui t'a tapé
oui,
aussi dans l'œil.
Celui qui a raté le penalty. Mais bon, j'ai trouvé qu'il y a un gaucher qui joue vraiment en piston là, sur le côté gauche, milieu, une sorte de milieu ailier.
Qui tire le corner sur le premier but du Restart.
Qui a une faculté à centrer du pied gauche. Parce que d'ailleurs, sur la double tête, sur la tête qui heurte les deux poteaux, je pense que c'est lui qui met le ballon. Donc,
c'est Aruna. Si. C'est Aruna si, qui a centré.
Qui centre là. Ah ouais,
ouais, l'arrière.
Ah bon. Non, je croyais que c'était le milieu. Mais en tout cas, il y a un beau pied gauche. Ils avaient quelques joueurs intéressants. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait la place. On a eu un peu de déchets techniques au milieu de terrain en première mi-temps aussi. Fadil qui était isolé de par ce schéma tactique. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir Fadil avec ou deux dans l'axe ou au moins un 9,5, comme on dit, ou un 10. Donc là, dans un schéma en 4-3-3, il n'y en avait pas, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu un no man's land autour de lui et il avait du mal, bien évidemment, à garder le ballon et à tirer son épingle du jeu dans ce schéma de la première mi-temps. C'est vrai qu'après, en deuxième mi-temps, on voyait qu'il y a plus de soutien, il jouait un peu plus haut, il était plus entouré, plus encadré. Et donc, de suite, on voit notre Fadil, forcément, dans ce schéma-là.
C'est sûr, rebondir sur ce que dit Patrick. C'est sûr que sur le 3-4-3, quand en deuxième mi-temps on attaque avec Yo Robert et Juliano Ramos sur les côtés, c'est vrai que ça permettait à Quentin et Axel d'être vachement plus dans l'axe, plus proche de Fadil. Et on a vu qu'il y a eu des situations où Axel et Quentin étaient beaucoup plus dans l'axe. Ça permettait à Fadil d'être un petit peu plus tranquille aussi, lui, pour attirer les défenseurs. Et je voulais aussi revenir sur quelque chose d'autre. C'est vrai que la semaine dernière, le coach disait qu'il devait s'adapter. Je pense que si hier il devait passer ses diplômes, il était complètement dans l'adaptation, parce que même en deuxième mi-temps, quand on commence à faire mal à cette équipe du Restart, on perd Bastien Graville sur blessure, qui faisait un match bon au milieu de terrain. Il y a un changement, il passe piston et il se blesse. Ça veut dire que là, bam, de suite, il est obligé de s'adapter. Ça a dû faire entrer Johan Malo dans un poste de piston qu'il connaît pas trop.
Qui amène le deuxième but,
oui,
hein, Malo.
Oui, il décale un petit peu. C'est vrai que c'est pas forcément son poste de prédilection. Mais voilà, il y a toujours eu hier, c'est vrai, de la difficulté. Et en plus des absents avant le match, il y a aussi eu des absences, enfin, il y a eu des blessures pendant le match.
Ouais. Tu as raison de soulever ça. Ce péno avant la mi-temps, un peu dur quand même.
Moi, c'est vrai que quand tu vois ça, bon, hein, une N3 contre une Ligue 2. Tu sais que le match va être tendu, serré, il n'y a qu'un 1-0. On est vraiment en toute fin de première mi-temps, parce qu'il faut bien, on ne l'a pas dit, mais on fait le coup d'envoi après le deuxième but, l'arbitre siffle la mi-temps immédiatement. Donc tu ne peux pas être au plus au bout de la mi-temps que ce qui est au bout. Et pour s'y faire un pénalty, quand il y a un arbitre comme ça, il faut vraiment qu'il y ait une vraie faute, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait... Bon, après, il y a toujours des micro-fautes, on peut toujours trouver, ouais, il va accrocher en haut, il a touché en bas, il a un tacle non maîtrisé, Jürgen s'est jeté, il a pas touché le ballon. Ok, ça va, mais pour s'y faire pénalty à une Ligue 2 contre un club de N3, en Coupe de France, 7e tour, il faut qu'il y ait une faute nette et réelle. La faute, elle y était sur le deuxième pénalty qui siffle. Là, il y a une faute. Alors après, on peut discuter si c'était intérieur ou extérieur. Mais en tout cas, siffler ce pénalty-là en première mi-temps, surtout que, comme le dit Laurent, on ne siffle pas le pénalty sur Fadil, qui pouvait aussi se siffler. Bon, à mon avis, l'arbitre s'est abusé. C'est vrai qu'il n'a pas fait de cadeau.
Non, mais c'était un âne, parce qu'en deuxième mi-temps...
en ouais, deuxième je ne voulais pas aller jusque-là, mais
tu... jusque-là. Parce qu'en deuxième mi-temps, il y a une action où il y a un centre sur le côté, où il y a un défenseur de... du Rastar qui arrête le ballon de la main, certes involontairement, mais je veux dire, il arrête une action, quoi. Il arrête une action, et face donc à 10 mètres de l'arbitre central, certes, l'arbitre central peut être caché, mais l'arbitre de touche, il est juste à côté, et le public était juste derrière. Bon, j'en connais quelques-unes des spectatrices qui étaient là, qui m'ont dit, on peut pas rater l'action, quoi.
Et donc, j'en connais ça, quelques-unes
des spectatrices.
Ok, très c'est bien. Oui.
Précise.
Et donc, du coup, il y avait un autre penalty. Et puis, il y a une main. C'est
d'accord.
Tout.
Non, et puis, comme, et ce... pour... Attends, juste un truc, c'est une décision. Ce n'est pas un âne.
C'est un peu dommage que tu...
Vas-y, Julien.
Oui, c'est... Voilà,
il y a la deuxième mi-temps.
Voilà, dans les dernières minutes,
ouais,
tout à fait.
Oui, et puis surtout, comme le dit Patrick, et comme je l'ai dit au début, quand j'ai parlé du match, s'il y a la faute de Jürgen sur le premier penalty, mais qui siffle directement. En fait, il hésite, voilà. Il va pour siffler. Et c'est parce que après le mec voilà. du Red Star, c'est mais ça. Alors là, par contre, il n'y a jamais faute, parce que moi, j'étais sur la butte, donc je suis en face, et il ne le touche pas du tout. Et là, il n'y a pas faute. Mais comme le mec du Red Star tombe, l'arbitre, il se laisse abuser, il se dit, allez, il y a deux mecs du Red Star qui tombent dans une microseconde. Allez, je vais siffler péno. Peut-être qu'à la 30e, c'est différent, mais avant la mi-temps, comme ça fait très, très mal. Quoi.
On est tous d'accord, oui.
Bon, après, c'est sûr, comme tu l'as dit, il y a une main de Sacco, le mec, il part au but, bon, il met que le jaune. Alors, certains vont dire qu'il a aussi avantagé la FL, mais globalement, quand tu regardes le match de cet arbitre, d'abord, je sais même pas d'où il venait, on n'en avait jamais entendu parler. Non, mais c'est vrai que les gars, bon, ça fout les glandes, parce que sur des matchs comme ça qui se jouent à pas grand chose, il y a quand même des décisions qui pèsent cher. Et pour te dire, c'est vrai qu'il était totalement incohérent, parce que justement, en fin de match, une fois, il y a Juliano Ramos, il c'est pas un tirage de maillot qu'il fait. Il s'approche complètement au gars, qui l'a pris de vitesse, il coupe l'action. Ouais. Bon, il siffle coup franc. Mais là, c'est une carton jaune, mais c'est tout à fait logique. Il le met même pas. Parce que, alors, est-ce qu'il se disait, ouais, bon, je vais pas accabler cette équipe? Non, mais voilà. Donc, on voyait que les décisions de cet arbitre, il y avait beaucoup d'incohérences quand même.
Ouais. Voilà. Il a sifflé deux pénaux pour l'adversaire. Alors, ouais. Qu'il nous fasse cadeau d'un tirage de maillot, il est gentil, quoi. Il va lui remettre une médaille en chocolat, le type.
Ah oui, mais ce qu'ils y étaient pas, c'est sa responsabilité. Il a pris, c'est sa décision. C'est comme ça, on est éliminé. 3-2. Prochain match de l'AFL, on se replonge dans le championnat dès ce week-end.
Samedi à 18h au Delmas contre Blagnac,
qui est troisième.
Ouais.
Voilà. Oui. Et si je tombe bien, 18h.
18h.
Il y a le relais aussi, donc.
Match, pas se tromper.
Le match est avancé à 18h.
D'accord. Et on va retrouver Pierre Tessier.
Oui.
Qui était celui, pas blessé, donc qui revient.
Et Benjamin.
Et Benjamin aussi.
Almaraz.
Ah. Ben c'est pas dit, hein. Si on va les retrouver, c'est pas vous qui faites les équipes, les gars.
C'est vrai.
Ils ont été bien remplacés. Bah, après, pourquoi.
Et Benjamin n'était pas blessé?
Non, il était suspendu.
Ah, c'était suspendu aussi. Oui,
la fameuse faute qui a.
Ah oui,
le carton qui a pas eu lieu à Alès, là, avec
le carton fantôme. Ouais. Carton fantôme
on
de la
saura jamais. Un petit mot sur cette Ligue Occitanie et sur Rousson et Alès, messieurs.
Pourquoi Rousson,
Rousson
Canet.
C'est Canet.
Ouais.
J'ai dit Canet
en Roussillon.
C'est là qui doutait du niveau de la N3 Occitanie. Il y a quand même deux équipes qui sont qualifiées pour les 8e tour en battant
Alès
de Ligue 2.
Alès et Rousson.
Alès a battu Ajaccio sur le score net de 2-0. Et au dire du délégué là, avec qui j'ai pu discuter hier, il m'a dit qu'il n'y avait pas eu photo, qu'il y aurait eu 4-0, c'était pareil.
Et c'est Canet, une surprise quand même. Hein.
C'est une micro-surprise.
Sur le papier, c'est sûr que ça fait surprise.
Parce qu'Ajaccio
et son équipe.
Ligue 2 N3, oui, ça fait surprise.
Et Ajaccio est
par
solide.
Par contre, la vraie surprise, pour moi, c'est Canet. Canet qui...
Je suis d'accord.
Qui bat 2-1 Béziers qui était en forme puisqu'ils avaient gagné 3-0 chez nos amis du Red Star le week-end d'avant. Donc voilà, il y a des équipes encore qualifiées. Il y a aussi Beaucaire qui est qualifié dans la région.
Ils ont battu Valence. Ouais.
Qui ont battu Valence. Et Valence 1-2.
Aiguemorte aussi qui est passé près.
Contre Marignan. Qui
joue à National. Prolongation 1-0. Défaite 1-0. Juste avant la fin de la première mi-temps de la prolongation.
Et par contre, autant Alès.
Aiguemorte qui est en R1.
Oui, c'est ça.
Et Rousson, ils ne sont pas passés loin aussi.
Non, mais ils étaient en coupe Occitanie, ils étaient. Ronfort, ah, ils s'étaient fait éliminer par l'AFL en Coupe de France.
Ah, c'est ça.
C'est ça. Et autant à l'Est, y a rien à dire, mais alors sur les petits résumés que j'ai pu voir de Canet, ce qui était marrant, c'est que la première mi-temps, tout le monde l'a qualifié de purge, quoi. C'était magnifique parce qu'il pleuvait des cordes, c'était un déluge. Apparemment, sur le terrain, les mecs, ils étaient frigorifiés, le terrain, et c'était une catastrophe. Il était pourri, du coup, première mi-temps, plus que compliqué. Et après, quand Béziers ouvre le score vers la 70e, il me semble.
Suite après la mi-temps, à peu près au même moment.
Alors, c'est Canet qui marque à la fin.
Voilà. À la 70e, peut-être.
Il marque à la 89e.
Et après, il marque à la 89e, mais par contre, Canet a fait une super deuxième mi-temps, quoi. Ouais.
Pour bon, dire ce qu'a dit Lolo, hier, il y a Issam qui est venu voir les filles parce que c'est son ancienne équipe. Et c'est vrai que confirmer qu'il avait passé un bon samedi après-midi, quand je parlais et que j'ai félicité, il avait un grand sourire. Et je pense que ça s'est très bien passé.
Ouais, mais Issam a fait son match. Il est sorti, je crois, vers l'heure de jeu.
Il revenait juste un peu.
Quasiment à la fin.
Il est sorti à la fin.
À la fin, 87e.
Ouais, voilà.
Ouais, bah pour une reprise, jouer contre une Ligue 2, c'est bien.
Il revenait, et du coup, Barbozet est sur le banc.
Il avait déjà joué.
Le week-end d'avant. Ah,
il avait déjà joué le week-end d'avant en championnat. Et là, du coup, il a joué pratiquement tout le match puisqu'il est sorti à la 87e. Ouais.
Bon, enfin, du coup, Yanis Garbi, qui était navré de ne pas jouer ce 7e tour, il jouera un 8e.
C'est ça.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Tirage demain.
Un mot aussi vers chez toi, Patrick Angoulême. Non, c'est pas du tout vers chez toi.
Pas du tout.
Mais ils ont éliminé la JOXR.
Et c'est Malo a éliminé Lorient.
Surprise.
Ça fait quoi? Ça fait
5
clubs de Ligue 2.
Il y a le Football Club aussi qui avait perdu vendredi.
À Croix, dans le Nord, 1-0. Voilà, ça fait 5 clubs de Ligue 2 qui restent sur la paille de leur entrée en lice. C'est pas mal, quoi.
C'est beaucoup, ouais.
Ouais, c'est beaucoup. Ouais.
J'ai pas en tête les dernières années, mais ça me paraît beaucoup.
Ouais, surtout qu'il n'y avait pas de confrontation directe, parce que des fois, il y a des ligues de Ligue 2 dès le 7e en fonction du tirage. Mais là, 5 sur 20, c'est.
Est-ce qu'il y a eu des 9-1? Allez, vous avez compris. On change.
Il y a eu un gros score, je crois. Il y a eu 8-0.
Le Havre, non? Il me semble que le Havre a mis.
Bayargues.
7-1, quelque chose comme ça, je crois. Ouais.
Ouais. Bon, on passe aux féminines. On va pas s'étendre sur le sujet. Hein. Tu as dit non-match total, 9 buts à 1. Bloqué par les Gilets jaunes en retour. Après-midi de merde, Nico. C'est ça.
C'est ça.
Voilà. Alors, Mende qui est 5e sur 7 avec 3 points. Derrière Beaucaire, mais qui a 2 matchs de moins, qui a 4 points. Et Saint-Chapt qui a 8 points, mais qui a un match de plus. Donc, on peut encore remonter. Hein. Prochain match, c'est quoi, Nico?
Ce week-end, à midi et demi, au Valdo, contre le Valdo en Coupe Lozère.
Ok. Ça va être bien, ça.
Tu fais un direct?
Non, du tout. Non. On attend 6 ans avec Laurent pour le prochain 7e tour de Coupe de France.
Surtout qu'elles sont déjà affrontées en Coupe de France, donc il va y avoir un petit esprit de revanche.
Il y avait eu combien déjà?
6-1.
6-1, ouais, donc ouais.
C'est le deuxième set, quoi.
6-1,
ouais. Ouais, c'est ça, c'est le deuxième set.
Si on fait le même match que ce week-end, c'est nous qui allons prendre 6, donc...
Ouais, ok. Coupe du Cantal, ouais, c'était la coupe, alors, face au tenant du trophée, le NL qui perd 2 buts à 1 contre la Châtaigneraie avec un but pour le NL de Bigot à la 16e.
Il y avait une division d'écart entre les deux équipes, donc pas assez loin de l'exploit, dommage.
C'est pas loin. Coupe Lozère, il y a eu quoi comme résultat?
Il y avait Badarou Marvejol en 8e de finale en retard. Donc
c'était à Marvejol, je crois.
C'était à Marvejol.
Et c'est Badarou qui a gagné
1-0. Et quart de finale, nous avec la réserve, on devait jouer au Chastel samedi soir, match annulé à cause du terrain.
Match qui est reprogrammé ce mercredi.
Oui. Et Montrodin a gagné 3-1 à Chirac en quart de finale. Et
ils ont déjà joué les quarts de finale.
Et le dernier quart de finale, c'est Valdo Le Buisson qui est le 27 janvier.
Ok, on sait déjà qui tombe contre qui ou il y a tirage au sort pour savoir?
Il y a tirage au sort pour les demi-finales.
D'accord, on est déjà en demi-finale, mi-novembre.
Enfin non, pour l'instant on est qu'en quart.
Hein. Enfin on est en quart, mais oui. Très bien.
Mon Roda est en demi.
Mon Roda est en demi. Et ouais, bravo mon Roda. Pour le foot, c'est tout, hein. J'avais pas Langogne parce que c'est la Laura Foot. Hein.
Si, Langogne a joué. Il joue en coupe Laura justement, ils ont gagné 2-1 contre Saint-Julien-Chapteuil. Ah ouais. Qui évolue une division en dessous et Le Buisson a joué en championnat à Pont-Saint-Esprit. Et ils ont perdu 5-1. Perdu 5-1 chez Pont-Saint-Esprit qui est deuxième et du coup Le Buisson est quatrième.
On aurait dû faire le voyage ensemble.
Non mais tu sais, 5-1, il rêverait des résultats comme ça, Nico.
Arrête un peu.
Non, mais en plus je les supporte, moi, cette équipe féminine. Très bien, on va parler bientôt volley, mais il est 13h, on va faire une pause musicale et on revient de suite après.
Mm-hmm. I pray for your help. I pray for your help. I pray for your help. Not anything else. I pray for your help. Do you hear anything? I'm standing on my knees. I like the discipline. It's not I don't believe. Show me just anything. I need to feel the dream. But at times I'm scared. I lift my hair on top of my head. All I want is to surrender so I can finally rest. I trust my faith. I don't have anything else. All I want is to surrender so I can finally rest. I pray for your help. It's not always easy. I just tend to forget your endless gravity. Cause whatever you see, catastrophe appears. I hope you understand. But at times I'm scared. I let my hair on top of my head. All I want is to surrender so I can finally rest. I trust my faith. I don't have anything else. All I want is to surrender so I can finally rest. I pray for your help. Do you hear anything? I'm standing on my knees. But at times I'm scared. I lift my hair on top of my head. All I want is to surrender so I can finally rest. I trust my faith. I don't have anything else. All I want is to surrender so I can finally rest.
On est repris, messieurs, on a repris, stop, c'est fini, on va parler de volley maintenant, avec 7 défaites à Fréjus, 3-7-1, 25-17, 22-25, 25-22, 25-17. Alors à noter que le central brésilien Ninao a dû quitter le parquet de la Halle Sainte-Croix sur une blessure au genou au tout début du match.
Ça peut être une tuile pour le reste de la saison, à voir, parce qu'avec la saison dernière qu'il a fait, on connaît son activité et son importance dans le collectif. S'il y a blessure, ça peut être inquiétant.
Oh, c'est ce qu'il a ou pas encore ?
Non, je ne sais rien, mais en tout cas, c'est un genou fragilisé depuis la saison dernière, puisqu'il avait déjà été blessé au genou en retombant sur le pied d'un adversaire, ce qui avait provoquer une entorse du genou. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont des habitués du gymnase, après le match là, du début de saison, pour ce qui reste un peu, on le voit sortir du vestiaire avec une énorme poche de glace sur le genou. Donc, on sait que c'est son point faible. Et donc, c'est vrai que, comme le dit Julien, c'est pas une bonne nouvelle s'il est gravement touché, quoi.
Le centre qui a bien marché, quand même, très bonne prestation apparemment du Moldave Pavel Mokanu et ses 14 points. Par contre, le MVL qui a été surpassé au bloc, seulement 8 points marqués contre 15 du côté de Fréjus et 29 points donnés par faute à l'adversaire, dont 16 au service. Ça commence à faire beaucoup. Laurent, qu'est-ce qu'il y a ?
Ouais, mais moi j'ai croisé ce dimanche un de nos auditeurs, fidèle auditeur qui regarde beaucoup les matchs lausérains, notamment ceux de volleyball aussi, c'est Aurélien. Et il m'a dit qu'il a trouvé beaucoup de lacunes au niveau des passeurs dans l'équipe sur ce match. Les passeurs qui n'arrivaient pas à mettre le rythme, parce qu'on sait que enfin les spécialistes sont au courant, que ce sont les passeurs qui donnent le rythme de
c'est une équipe. De jeu.
C'est le meilleur de jeu. Ouais. Et donc, lui, il a trouvé que nos passeurs étaient un petit peu mous du genou. Alors je ne sais pas si vous avez eu les mêmes échos.
Moi j'ai regardé, pour être tout à fait honnête, après, il y avait le rugby France-Argentine, donc j'ai arrêté.
Et Fort Boyard.
Mais, non, il n'y a pas Fort Boyard, parce que c'est, le rugby était sur la 2. J'ai regardé la fin du second set, où on menait de 6 ou 7 points, enfin une avance, tu voyais que le set était plié. Et puis tout d'un coup, finalement, tu te mets un coup de pression incroyable parce que sur les services adverses, tu as une réception qui est quand même flottante. Et donc, du coup, tu prends après une rafale de points. Alors, les ballons partent dans tous les sens et tu te mets une pression incroyable. Et c'était déjà le cas à Avignon. Le 3-0, la cause principale, c'était justement la quasi-impossibilité de retourner les services avignonnais. Et donc là, à Fréjus, ça a été un peu pareil. Je trouve qu'on a une faiblesse sur les réceptions, en particulier sur les services des adversaires. Et ça se voyait dans cette fin de deuxième set. Heureusement, on l'a gagné, mais c'est vrai qu'on ne devait pas souffrir. Puis au final, tu te retrouves avec un point ou deux points d'écart et tu te dis, mais comment ça va tourner, quoi. Voilà, exactement.
Du coup, on perd deux places au classement. Hein. Bon, ça reste assez collé.
Combien de personnes d'équipe derrière nous, là, en fait?
Deux, trois,
mais on est égalité à 7 points avec 3 équipes.
Voilà, il dit 3, mais en fait, il a enlevé le CNVB, et il a raison de l'enlever, puisque le CNVB ne va pas descendre. Donc, c'est vrai que derrière nous, il y a IAC et Nancy, exactement.
Ah, et Café Avignon.
Avignon, ils jouaient vendredi soir contre les jeunes du CNVB, 3-0.
Ouais, sans problème.
C'est tarif pour le CNVB, 3-0.
Ouais.
Les jeunes, c'est dégoûté du volet.
Par contre, même s'il y a. Alors bon, l'objectif des playoffs, c'est peut-être pas annoncé, mais il y a quand même un petit écart qui commence à se faire au classement. Là. Bon, il y a Paris qui a concédé ses premiers points d'ailleurs.
Quatre grosses équipes. Ouais.
Ce week-end, là, ils ont gagné 3-2. Donc pour la première fois de la saison, ils ne marquent pas 3 points, mais 2 au classement.
À IAC d'ailleurs. Mm.
Et derrière, il y a 2-3 équipes là, qui sont à 3 points de Paris. Donc il y a un petit écart qui commence à se faire entre le haut de tête et le ventre mou, ce qu'on dira.
Il y a Cambrai, Saint-Nazaire, Paris.
Saint-Quentin, non.
Et Martigues qui annonce vraiment une belle équipe. Par contre, Saint-Quentin a le même nombre de points que Mende. Et donc là, ce samedi, il y a Mende-Saint-Quentin. Donc, énorme match. Avec l'ancien Mendois, Moussé Gueye. Ouais. Et puis le Calédonien d'Avignon, Talia, mon Italia. Donc là aussi, un gros match. Hein, parce que Saint-Quentin, même s'ils ont le même nombre de points que Mende, il y a quand même des joueurs. Une belle équipe.
Alors le pointu varois marqué Mielo Pagic, 25 points sur cette partie.
Et oui, alors que nous, notre meilleur marqueur, c'est vrai que la marque est répartie, on est à presque 14 points, 15
14
points.
Pour, ouais, voilà, 14 ça. Pour Alphonse et Mokan.
Et oui, on voit que Avignon c'était pareil, hein, tu avais le Serbe qui était à 22 points contre nous, là tu en as un autre qui était à 25 points, contre Paris aussi il y avait un joueur, bon, là aussi, bon. Est-ce que c'est un signe? Est-ce qu'il faut aussi pas tout envoyer 50 ballons sur notre pointu, comme le font la grande majorité des équipes? À voir. C'est un choix tactique.
Ça commence à être compliqué quand même, hein, parce que...
C'est vrai que là, sur le bilan, mais tu es finalement qu'à 2 victoires et 4 défaites. Alors bon, certes, tu as joué Paris, on est d'accord. Mais bon, c'est vrai que c'est ce 3-0 à Avignon et ce 3-1 à Fréjus, on s'y attendait pas et finalement on se retrouve dans ce maelstrom d'équipe et bon, on a l'impression qu'on va naviguer dans ces eaux-là toute la saison, à moins qu'on puisse enchaîner des victoires consécutives. Et pour ça, bien sûr, il faut gagner à l'extérieur. Et pour le moment, on ne sent pas qu'on a la capacité de gagner à l'extérieur.
Puis c'est ce que tu disais sur les émissions précédentes, il y a gagné à l'extérieur, mais il y a gagné aussi contre les équipes contre lesquelles on est censé rivaliser et avoir plus ou moins le même niveau, à savoir Fréjus et Avignon. Ouais. C'est sûr que, voilà, on a parlé du match de Paris qui avait été quand même un beau moment à Piancourt, mais le début de saison, voilà, ces deux matchs clés, tu les gagnes, on dirait pas la même chose, donc bon.
Ça serait totalement différent, tu as raison.
Puis c'est surtout que les défaites contre Avignon et Fréjus, c'est un peu dans la continuité de l'année dernière. On n'avait pas réussi l'an dernier à franchir le cap d'aller battre ces équipes de haut de classement, là, puisqu'on luttait pour la montée avec eux. Et là, on perd encore sur ces deux derniers matchs contre Avignon et Fréjus. Donc il faut vraiment essayer de franchir ce cap.
Tu luttais avec Fréjus, puisque Avignon était déjà monté l'année d'avant. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait d'autres équipes. Quand on Martigues et Ilia, on va voir aussi Martigues, on le voit, qui fait un gros début de championnat. Et c'est vrai que quand tu compares le parcours de Martigues, on avait l'impression que nous aussi, on était incapacité d'avoir ce parcours-là, c'est-à-dire se retrouver dans les 4-5 premiers avec déjà un petit matelas d'avance sur les équipes derrière. Et puis non, finalement, non seulement on n'a pas d'avance, mais on se retrouve dans ce paquet d'équipes.
Ok, affaire à suivre, il va falloir se ressaisir. Saint-Quentin, c'est classé où à peu près?
Avec le MVL, 7 points.
Bon, ben alors là, victoire obligatoire.
Ouais.
C'est un tournant.
C'est un tournant, ouais. Rugby, le RCML, j'ai croisé Loïs qui m'a expliqué, je crois qu'ils font 4 matchs à l'extérieur là d'affilée, un truc comme ça, qui joue à Saint-Afrique. 23-14 défaite, mais il paraissait content de ce match.
Tu devais recevoir Saint-Afrique, mais le match, bien sûr, a été inversé, puisque le foot... bien sûr, avait ce match contre le Restart. Donc, c'est pour ça que le.
Saint-Afrique est second du classement et 23-14 au final. Donc,
il va y avoir un match en retard aussi début décembre. La semaine prochaine, tu redescends en bas et tu joues contre Saint-Gély. Donc, ça fait 3-3. Et après, il y a un quatrième match, c'est vrai, d'affilée à l'extérieur. Donc, ça ne range pas nos affaires puisqu'on se retrouve dernier au classement. Même si, c'est vrai que le score, paraît honorable, on a failli arracher le bonus défensif puisqu'il faut perdre que de 7 points. Donc, on était tout proche. Mais j'avais vu Loïs jeudi, pendant les photos du col, à l'espace événement, et donc il m'avait dit qu'il manquait quelques joueurs importants dans le pack. Et bon, je pense que ça a dû se ressentir dans ce match contre Saint-Afrique qui fait un gros début de saison.
Oui, une belle résistance de nos joueurs mandois. Handball, bravo aux gars du MGC. Ça y est, première victoire de la saison, 28-24 contre Saint-Afrique également. Laurent, tiens, je te vois avec la feuille du match, tu vas me dire alors.
Oui, 28-24, belle victoire contre le premier avec... Avec, comme d'habitude, Robin qui marque 11 buts et puis Olivier qui... Qui a été disqualifié, mais donc 5 buts.
tu dis rien là.
Non, je dis rien.
Il paye un coup de chaud, il paraît.
Et c'est possible,
mais.
C'est
la dernière minute.
Il y a une petite échauffourée à la fin, il paraît.
C'est pas grave. Chaud, hein,
c'est pas grave.
Chaud.
C'est ça, il faut mettre de l'intensité.
Parce que le gardien aussi a pris un carton rouge, il n'a pas été tout seul dans la fin.
Il s'appelle, c'est le numéro 19, Sylvain. Ouais, 8 arrêts, donc c'est bien le gardien.
Voilà, il me semble qu'il.
Peut-être que Olivier Cavalier contre le Red Star aurait fait du bien.
Ouais, la fin de match.
Non,
mais
c'est sport, c'est ça, c'est ce qu'il faut mettre.
A été tendu.
C'est l'ambiance qui pèse à
l'eau. En tout cas, il y a une belle victoire avec seulement 24 buts encaissés, mais 11. Alors, combien j'ai vu qu'il y avait d'arrêts? 12 arrêts de Gaëtan. Ce qui est bien, mais ça veut dire qu'il y a surtout eu une très bonne défense des collègues à côté comme d'hab
la bonne défense,
oui, c'est pas toujours, mais ça arrive,
ça revient souvent.
Et donc voilà, prochain match, alors ils sont derniers ex aequo avec Rodez, ils ont réussi à rattraper le Roc de Rodez, et ce week-end au stade Cadurcien.
C'est Cahors. Déplacement à Cahors.
Voilà, Saint-Afrique qui avant ce match était second du classement, enfin premier ex-aequo avec Espalion. Et du coup, on revient à 3 points à hauteur de Rodez. Les féminines.
Non, mais c'est vrai que Saint-Afrique se déplaçait chez le dernier. Et quand tu es premier, tu penses que le match va être facile. Et c'est vrai que les Aveyronnais ont été surpris de la résistance mandoise. Et donc, chapeau à cette équipe. Chapeau à Jérémy Roum et tous ses copains. Première victoire, on débloque le compteur. Donc, espérons que la saison est enfin lancée pour cette équipe. Et c'est vrai que la fin de match a été, on m'a raconté, c'est vrai que ça a été chaud, hein. Très très chaud. On connaît notre ami Olivier Cavalier qui est chaud bouillant. Et donc il paraît qu'il y a eu, puisque le carton rouge était à la 59e, donc juste après il y a eu la fin de match, il paraît que les possibles ils se tapent tous dans les mains.
Il y a eu
des bises, mais des bises appuyées.
Ils se sont tapés, mais pas dans les mains.
Voilà, chaleureusement. Et donc, mais bon,
on se dira au revoir.
C'est bien ça. C'est ce genre de match qui peut aussi souder définitivement un groupe. Et donc espérons que la dynamique est bien lancée.
Non, mais puis il faut que les Aveyronnais soient au courant que c'est pas facile de venir gagner chez nous, quoi.
Ouais,
et d'en repartir.
Voilà. Souder un groupe et dessouder les deux sorcières.
De sortir de la
Bernette. Au rugby, c'est normal qu'on les batte.
C'est donnant.
Voilà. Par contre, les filles, grosse victoire contre Bouillargues, 23-22.
Ouais, les filles sont premières.
Plus que jamais en tête. En tête, ouais. Seule en tête.
Alors, grosse victoire, mais grosse frayeur aussi. Hein,
oui, parce qu'il y avait 6 ou 7 buts d'avance.
Il y avait 23-19 à 2 minutes et demie de la fin du match. Et les autres sont revenus à 23-22. Et je pense qu'il était temps que le match se termine. Quoi.
Même à un moment, il y a eu au moins 6 buts d'écart. Ouais. Dans le cœur de la deuxième mi-temps.
Et ce week-end, elle se déplace à Frontignan. Oui, dimanche.
Voilà, ok, Frontignan qui avant.
Et Norlzer, il y a pas eu de, elles n'ont pas joué ce week-end.
Par contre, il y a les garçons ont gagné en championnat 34-20 contre Murat. Mmh. Allez, basket pour finir cette page lozérienne. Nouvelle défaite 56-53 de 3 points contre Rodez. 56 à 59. Alors contre Rodez, ouais, toujours pareil, mais des blessures encore une fois avec Messout, l'option numéro 1 en attaque qui s'est blessé au genou. Apparemment, appel des pompiers, tout ça, c'est grièvement blessé. Compliqué. Et Philippot, leur défenseur numéro 1, qui s'est également blessé juste avant la mi-temps. Alors déjà, qu'ils ne sont pas nombreux dans cette équipe, avec beaucoup de nouveaux qui n'ont jamais joué. Très, très compliqué. Et ils perdent de 3 points. Ils ont le ballon de l'égalisation qui loupe.
On leur souhaite bon rétablissement, surtout aux deux joueurs blessés.
Ouais.
Ça n'arrange pas les affaires du basket, parce que là, c'était deux équipes qui étaient à 0 victoire. Donc il fallait enclencher la première victoire et bon, nouvelle défaite à domicile, et donc là il y a un déplacement aussi chez un club qui a pas gagné un match. Donc là, encore une fois, un tournant. Il faudrait gagner vendredi prochain.
Voilà, Rodez qui a fait descendre aussi des joueurs de l'équipe 1, hein, dont un joueur qui était à 26 points, qui a marqué 9 points en première mi-temps quand Philippot était là, et qui en a marqué 19 ou je sais pas combien en seconde mi-temps. Enfin bref, on les soutient, on espère que ça va aller. Alors oui, juste Julien, tu as des précisions?
Non, mais sur quelque chose sur le foot, là, on n'a pas parlé de l'équipe 3 de l'AFL qui a joué ce week-end. Quand on a parlé du foot lozérien tout à l'heure, ils avaient un tour de cadrage de Coupe d'Alu. Donc, voilà.
Un tour de cadrage,
ça existe.
C'est quoi?
C'est parce que quand il y a trop d'équipes d'engagés, ils font
pour faire
un chiffre pair, quoi.
D'accord. Voilà. Et pourquoi c'était l'équipe 3 de l'AFL? Pourquoi c'était l'équipe 3 de l'AFL qui a fait ce tour de cadrage et pas une autre équipe?
C'est la 3 qui fait la Coupe d'Alu.
C'est un tirage au sort.
Non, mais pourquoi c'est l'AFL et c'est pas un tour de cadrage avec, je sais pas moi, la Vaillante Aumônaise?
C'est un tirage au sort.
Ah, c'est un tirage au sort. Ok. Et alors, ça donne quoi?
Ils ont gagné 8-0 à Saint-Germain-du-Theil.
Voilà, sous la pluie.
C'était pour donner juste l'info. Quoi.
Ouais,
et ce week-end, bon match à jouer à Badarou en championnat. Là, par contre, ça va pas être là.
Ah, ça c'est bien ça. Mmh.
Alors, moi, c'est mes deux équipes, la 3 et les filles, donc 8-0, 9-1. Je suis match nul ce week-end, c'est bon.
Ouais, on aurait pu miser sur l'AFL Badarou. Mmh. Parce qu'en plus, je connais des gens à Badarou qui pourraient truquer le match pour donner des points.
Un latéral.
Ouais, un latéral numéro 10.
Messo, bon. grand arbitre de touche, cher Messo.
Ah. Allez, on va passer au sport national avec la Ligue des Nations, on n'en parle pas trop. Juste pour dire bravo à Laurent qui a marqué un point en trouvant le bon résultat de Pays-Bas-France.
Comme quoi. Hein.
Alors,
on a récupéré la bâche.
La feuille,
il y a deux gars qui ont pronostiqué victoire des Pays-Bas, c'était Franco Vignola et moi. Donc, les mecs qui connaissent pas le foot, messieurs.
Écoute-le, quoi.
C'est ça.
On va en reparler.
Laurent, tu n'as qu'un point, d'ailleurs.
Regarde le tableau où je suis. Regarde, on est avec Patrick. Et après, on parlera football si tu veux, tous les deux.
Voilà.
On est pas très loin, mais on est devant.
C'est que le début de saison. On va pas faire un point maintenant sur les pronostics.
Et puis 2-0, ça ne déconne, t'as de la chance. Parce qu'on doit en prendre 4 ou 5 normalement.
On peut en prendre qu'un parce que
c'est surtout que le pénalty, j'étais bien content qu'il arrive. J'étais le seul à encourager notre ami Lyonnais. Là.
Surtout que Loris, ça ne sort jamais, donc tu savais qu'il y avait but.
Ah, mais là, je le savais.
T'es, en parlant de tes amis Lyonnais, on va parier sur le derby Lyon-Saint-Etienne qui a lieu ce vendredi.
Moi, je sais déjà.
Oui.
Toi, tu sais déjà, mais c'est bien de toute façon parce que vu que c'est toi qui as marqué le point, c'est toi qui vas commencer.
Alors, moi, j'annonce 3-0 pour Lyon, 3 pénaltys.
Ok, ça marche, pas de soucis. Vas-y, Julien.
Alors, si c'est ça, tu marques deux fois. Hein.
Allez.
Ah, tiens, double point.
Non. On n'invente pas des règles. Non.
Bah, c'est pas.
Allez, s'il n'y a pas 3 pénaltys, mais qu'il y a 3-0, il marque pas de points. Non, mais vous inventez pas des règles comme ça, mais n'importe quoi.
Déjà qu'il marque des points sur la Ligue des Nations, si en plus on lui accorde des doubles points.
Déjà, la Ligue des Nations, ça devrait être un demi-point, parce que tellement c'est nul.
Comme j'ai dit en off avant l'émission, je vais prendre des risques. 2-1 pour Saint-Etienne.
D'accord.
De toute façon, j'ai déjà un point.
Non, mais Saint-Etienne, il marche, Gassé, ils vont aller au contact. Est-ce que les supporters sont acceptés pour une fois?
Toujours pas.
Il n'y aura pas de supporters Saint-Etienne?
Non.
Ah, bah, si tu viens de le dire, je change mon pronostic.
Allez, change ton pronostic.
3-2 pour Lyon.
D'accord.
Ah, tu viens de rajouter deux buts à Lyon, c'est ça ?
Non, je viens de dire deux.
Ok.
Bon, ma femme est supportrice des Verts, donc je vais dire un partout.
Ok, un partout. Mathilde nous dit 3-1 pour Lyon.
Et
moi, je vais dire 2-2. Voilà, match nul. C'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Victoire contre l'Argentine au rugby. On va en dire un mot parce que ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Victoire des féminines contre la Nouvelle-Zélande aussi.
Qui ont fait un super match. Ouais. Pour une fois, j'ai regardé du rugby, ben, je ne me suis pas gouré. Ouais.
Avec les féminines ?
Les féminines, ouais.
Ouais.
Ouais, c'était vraiment bien.
Il y a un jeu tout à l'attaque. Et c'est vrai que c'est impressionnant, c'est féminin. Et bon, excellent, dans des conditions pas faciles en plus, au niveau de la météo.
C'est physique.
Et en fait, ça m'a fait penser au hand, en fait. Je trouve que c'est plus sympa le hand féminin parce qu'elles essayent de jouer. Il y a pas l'aspect physique qu'il y a chez les hommes.
Et mais au comme rugby, au foot. Hein.
Et au rugby, c'est pareil.
C'est très technique.
C'est pareil, elles s'envoient des nions quand même. Mais elles essayent de plus jouer. Je trouvais que c'était sympa. En plus, ça faisait 4 ans que les All Blacks n'avaient pas perdu un match.
Champion du monde en titre.
Ouais, 7 fois champion du monde sur 7 Coupes du monde.
Ah ouais. Ouf.
Donc, bonne équipe et très belle équipe française. Je crois que c'est prometteur.
Ils ne sont pas sûrs de leur force. Quoi. Mm.
Et c'est les garçons, c'était peut-être un peu plus moyen, hein, c'est quand même la victoire.
Hein. Ouais. Ah. Mais bon.
Mais ils ont gagné.
Tu l'attendais depuis tellement longtemps que.
9 mois, c'est ça, j'ai
même,
vu.
Ouais,
c'est
même
9 mois qu'ils n'avaient pas gagné. C'est
pourri, tu le prends. Ouais. Bon, c'est vrai qu'ils ont fait quand même. Après, il y a une entame catastrophique parce que sur le premier ballon, tu perds ton arrière et tu prends un essai. Donc, 7-0 et un joueur à moins titulaire. Et puis bon, petit à petit, ils se sont remis dans le coup avec une grosse mêlée. Ils ont atomisé les Argentins sur toutes les mêlées fermées. Et donc, victoire logique avec Ficou, c'est vrai, qui est un peu transfiguré depuis qu'il est parti de Toulouse. Ça lui a fait du bien, ça l'a boosté. Il a maigri en plus. Donc, ils ont un entraîneur sud-africain qui les pèse tous les jours. Et donc, avec sur Ficou, il est vraiment à cheval là-dessus. Et c'est vrai que on le sent un peu transfiguré, tant mieux.
Enfin, on gagne, mais parce que aussi sur l'essai de Guirado, il y a quand même un Argentin qui avait mis du.
Ah ouais, mais il faut qu'il y ait des erreurs, hein, des fois. Hein.
Ouais. Ouais. Enfin, pour une fois, ça sourit de notre côté, c'est pas mal. Mm.
En tout cas, c'était pas loin à chaque fois. Là, c'est la victoire. On peut attendre quoi de cette Coupe du Monde au Japon ?
On verra. C'est l'année prochaine. Il faut. Quand tu vois l'Irlande qui bat la Nouvelle-Zélande, moi j'ai vu. Quelques bouts de match, il y a une intensité incroyable. C'est vraiment. Tu crois même que c'est pas le même jeu, quoi. Il faut voir ce qu'ils se sont mis, et puis la vitesse, les contacts, la technique. C'était un match aussi de toute beauté. Donc attention, il y a des équipes qui sont très en forme. On verra ça dans un an.
Laurent, tu veux rajouter quelque chose ?
Non, moi je voulais changer de sport, mais.
Vas-y, change de sport, très bien.
C'était juste pour vous dire que, au niveau du basket, Portland est premier en conférence Ouest.
Ah !
Devant les Golden State, donc voilà. Donc c'était. Là, vous oubliez de m'en parler.
Oui, ouais. C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Oui, tu as raison, Portland, c'est très bien. Premier.
Et Golden State, qui est le champion en titre, et la grosse équipe du basket américain.
Mais ça va pas en ce moment, ouais. Ils se tirent un peu dans les pattes, ils s'insultent un peu.
Ils sont nuls,
il y a Curry qui est blessé, donc voilà, c'est compliqué. Oui, Nico, toi aussi, de quel sport tu veux nous parler ? De couture ?
Je vais vous parler
de foot. Ah, de foot.
Et de foot féminin. Hier, il y avait le premier de D1 contre le deuxième de D1 à Paris, à Charletti, Paris-Lyon.
En direct sur Canal.
Direct sur Canal. D'ailleurs, il y avait du monde et il y avait une belle ambiance. J'ai regardé la première mi-temps, franchement.
Patrick, tu as regardé ?
J'ai regardé un peu. Il y a eu une énorme erreur du.
Ouais, voilà.
De la gardienne de Lyon.
Ça fait 1-1, premier but.
C'est la gardienne équipe de France.
Ouais,
c'est
l'équipe de France. Passe en retrait, elle contrôle, elle met 15 secondes avant de faire son choix et elle fait le choix probable en le mettant dans les pieds de cette petite chinoise là, qui est vraiment balèze.
Et qui l'a dribblé en plus après.
Ouais, qui l'a dribblé. Voilà,
qui a joué la panique.
C'était Magaï. Ouais, belle action de jeu.
Et un quart d'heure après, sur un coup franc, Wendy Renard qui fait 2 mètres, qui est plus grand que tout le monde, elle met un coup de tête, un partout, et ça n'est resté là. Voilà. Mais en tout cas, c'était une belle vitrine du foot féminin.
Ouais, ils ont joué à quel stade ?
À Jean-Bois.
À Charletti.
C'était à Jean-Bouin. C'est là où joue le Stade Français.
Avec le groupe de supporters de Paris, le collectif Ultra Paris qui était là, qui a mis une ambiance festive, bonne enfance, c'était pas mal.
C'est vrai qu'on voyait que Lyon était quand même un cran au-dessus. Il y a eu de belles actions. C'est vrai qu'au point, elles sont devant, puisqu'elles ont eu les meilleures occasions pour marquer ce deuxième but. Mais c'est vrai que ça donne une belle image du foot féminin. Et c'est vrai que d'année en année, on sent quand même une progression.
Petit pénalty peut-être à la 90e pour Lyon. Il y avait un. Voilà, Si vous n'avez pas vu la faute sur Fadil, vous pouvez regarder la faute sur la Lyonnaise, un peu pareil.
D'accord.
Ça donne une idée.
Calendrier, l'arbitre.
Ouais. Et j'ai encore une dernière chose, un autre sport, nos amis de Lozère Sport Nature.
Les multisports quand même.
Qui ont, fait sixième à l'étape à la réunion des championnats du monde. Voilà, bon, ils avaient un objectif en tête qui était d'attraper le top 5 avant de partir. Au final, au vu de la difficulté du parcours et de la performance qu'ils ont fait, ils sont quand même très contents de leur top 6.
Au moment du parcours, ils étaient troisième, ou alors ils avaient le troisième en vue, puis après ils sont foirés sur une.
En fait.
Une lecture de carte,
ouais,
non?
Ouais, ben, je crois qu'il y a un souci d'orientation qui fait qu'en fait, il y a une partie de canoë, qui fait qu'à un moment donné, ils sont obligés, c'est le règlement, de stopper, de pas faire la nuit. Et il leur manquait une heure pour pouvoir continuer. Ils ont été stoppés pendant quelques heures, alors que ceux de devant avaient passé ce checkpoint et qui ont pu continuer. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent avec pas mal de retard. Après, ça se joue. Enfin, sur une course de 4 jours, 5 jours, c'est rien, quoi. Mais bon, voilà. Après, voilà, quand même une grosse performance. Et ils étaient contents de ce qu'ils ont réalisé. Je pense bien fatigués quand on voit les publications Facebook et qu'on discute avec certains. Mais voilà, c'était une belle chose. Et puis, ils auront l'occasion de nous le raconter à la radio quand Ludo les invitera.
Bon, mais moi je les invite. Tu leur dis lundi prochain de venir ?
Si tu veux, j'écris un texto.
Allez, lundi prochain, c'est trois garçons, une fille, c'est ça ? Trois hommes, une femme ?
Si, c'est ça.
Bah écoute, allez, si on peut avoir une homme et une femme, ça serait bien.
Une homme et une femme.
Est-ce qu'il y a d'autres sports national, international ? Le tennis, ça vous dit le double ?
Même Zverev qui gagne le Master en battant Federer le samedi et Djokovic le dimanche.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas mal.
Et puis il y a Seb Ogier en rallye WRC qui est champion du monde alors que il est dans une structure privée. Bon, l'année prochaine il a signé chez Citroën, mais il était toujours chez
avec
Ford.
Avec un autre Sébastien d'ailleurs.
Une structure privée. Et c'est vrai que il y a on peut voir des images sur l'équipe 21, donc la TNT gratuite. Et en Australie, sur ces pistes avec cette terre rouge, ça donne des images là dans ces forêts, ça donne des images magnifiques. Et c'est vrai qu'il y a eu de la casse, et un vrai rallye. Et puis il est toujours là. C'est un gagnant, c'est un winner comme on dit, ce Seb Ogier. Et donc chapeau à lui. Deuxième victoire consécutive dans cette écurie privée. Bon, chapeau. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup qui est face à des Toyota officiels, des Hyundai officiels. Bon, Citroën aussi, même s'ils ont moins de moyens. Chapeau à lui. Chapeau à lui d'être champion du monde encore une fois.
Chapeau à lui. Chapeau à nous. On remercie aussi avec Laurent les supporters du Red Star qui nous ont envoyé des messages sympas, qui nous ont écoutés sur ce match hier. Voilà, on les salue. Si jamais ils ont décidé de continuer à nous suivre, on ne sait jamais, pour entendre le débrief de ce match dans cette émission.
Et voilà, juste, qu'a fait la Belgique hier juste ?
5-2.
Je ne sais pas.
Ils ont éliminé la Ligue des Nations. Voilà.
Ouais. Contre la Suisse.
Oui, c'est la Suisse. Alors qu'ils ont été qualifiés. Et tu parlais du Red Star, mais signalons, il y avait Steve Marley. Oui. Donc qui est directeur sportif de cette équipe, donc qui était présent au chapitre, il a joué à Marseille. Bon,
tu es dans les tribunes.
Et voilà, et donc j'ai eu l'occasion de discuter avec lui à la fin du match, et vraiment il a trouvé l'accueil. Il s'est baladé le samedi matin dans la ville, il a trouvé une excellente ambiance. Il s'est fait, il y a certains qui l'ont reconnu, donc il a fait un peu des photos, il a signé des autographes. Et puis après au stade, l'accueil des dirigeants, des bénévoles, et puis le match en lui-même, la réception d'après-match. Vraiment, il a adressé un très gros merci à tout le club, et vraiment un chapeau de l'accueil reçu par ici à Mende.
Steve Marley qui a été formé à Auxerre.
Oui.
Et d'ailleurs, le club du Red Star qui a laissé la recette au club de l'AFL.
Voilà.
Au commentateur de 48 FM.
C'est pour ça que la semaine prochaine, on aura un autre buffet.
Voilà. Et on a des saucisson. Gens qui font du trial à La Réunion.
Fini le saucisson.
Qu'est-ce qu'on a sur la
semaine prochaine ? Pas du trial.
Qu'est-ce que tu nous proposes la semaine prochaine ?
Du trail.
Crudité.
Attention,
il va falloir que je bosse mon sujet.
C'est autre chose de trial.
Il va falloir que je bosse mon sujet parce que ça fait 6 émissions où je dis oui, je suis, mais je ne comprends absolument rien.
S'ils arrivent avec les motos, ça va être chaud.
C'est jamais. Ah ben, ça serait la surprise lundi prochain. Ciao les gars.
Ciao.
Bye.
Les Fleet Jones au couloir numéro 2, allez les filles, c'est parti pour les Fleet Jones.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet, je ne dis rien.
C'est le moment, c'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez Louis.